franceinter.fr.
Le journal Bruno Duvic.
Bonjour. Au sommaire aujourd'hui, les inégalités se creusent dans le monde entier. Elles explosent aux États-Unis. Elles sont à peu près contenues en Europe. Résultat d'une étude très fouillée présentée en avant-première aujourd'hui sur France Inter. Les détails dans un instant. Cahors, capitale de la France aujourd'hui. La moitié du gouvernement et le Premier ministre dans la ville du Lot pour voir comment réduire les fractures entre territoires. Internet d'abord. Édouard Philippe promet le haut débit pour tous en 2022 et met la pression sur les opérateurs. Autre question, comment revitaliser les centres-villes? Eh bien, nous verrons cela avec notre invité, le maire de Cahors, qui a réduit le nombre de magasins vides chez lui. Il nous dira comment. Malaise des territoires, autre illustration, grève des avocats dans tout l'ouest du pays et d'autres villes comme Chambéry. Il redoute la disparition de cours d'appel. Sous sa présidence, les inégalités se creusent, mais la Russie a retrouvé une voix dans le monde. Vladimir Poutine face à 1600 journalistes, conférence de presse annuelle, alors qu'il sera à nouveau candidat à la présidence l'année prochaine. Si vous voulez qu'il y ait encore des essais cliniques en France, simplifiez-nous la vie, sinon nous quittons le pays. C'est l'appel de chercheurs et d'entrepreneurs au gouvernement et ce sera le rendez-vous santé du jeudi avec Daniel Messager. Dans ce journal encore, nouveau sommet sur le Brexit à Bruxelles et la Britannique Theresa May un peu plus affaiblie chaque semaine. Le procès Tron à Bobigny, parole à ses accusatrices aujourd'hui. La météo, bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
C'est encore agité Élodie.
Eh oui, des averses, surtout au nord de la Loire avec des orages. Attention, le Pas-de-Calais est toujours en vigilance orange pour le risque de crue. On a du vent partout, jusqu'à 80 km à l'heure, 100 voire 110 sur les côtes bretonnes. C'est un peu plus doux avec 6 à 12 degrés au nord, 9 à 15 dans le sud et jusqu'à 17 autour de la Méditerranée où on trouve encore des éclaircies.
Et il reste encore quelques centaines de foyers privés d'électricité en Lorraine. Plus de détails à 13h30. Avant cela, une exposition consacrée à Louis Pasteur, personnage surprenant. Vous verrez, vous êtes les bienvenus dans le journal de 13h. C'est l'une des questions économiques et politiques les plus importantes du moment, l'accroissement des inégalités dans le monde. En avant-première pour France Inter ce matin, deux économistes de renom sont venus donner les résultats d'une étude inédite sur le sujet. Oui, les inégalités se sont creusées dans le monde depuis les années 80. C'est au Brésil, en Inde, au Moyen-Orient que l'écart entre les plus riches et les plus pauvres s'est le plus agrandi. Et puis il y a deux continents qui prennent des trajectoires très différentes. Europe, États-Unis. Prenez le revenu total. Quelle part du gâteau revient aux plus riches, les 1% les plus riches? États-Unis, 1980, cette part c'était 10%. Aujourd'hui, c'est 20%. Les inégalités se sont creusées considérablement. En Europe, on est passé de 10 à 12. Les inégalités se creusent moins. Pourquoi cette différence? Réponse des deux économistes Lucas Chancel puis Thomas Piketty.
Un effondrement du revenu minimum aux États-Unis qu'on n'observe pas dans les grands pays européens, un effondrement de la progressivité fiscale aux États-Unis qu'on observe bien moins dans les grands pays européens, un accès extrêmement inégalitaire à l'éducation, à la santé qu'on observe également dans une moindre mesure en Europe.
Les classes populaires, les classes moyennes en Europe, on peut pas juste leur dire regardez, il y a moins d'inégalités qu'au Brésil, au Moyen-Orient, aux États-Unis, soyez heureux, arrêtez de nous embêter. Le fait est qu'on a aussi un accroissement des inégalités en Europe, ce qui veut dire que dans une période où la croissance est devenue très faible, une bonne partie de la croissance est quand même happée par le haut de la distribution et le bas de la distribution voit des salaires qui stagnent. Et ça, vous pouvez dire tout ce que vous voulez aux gens, les gens le voient. Et donc vous avez une défiance, un sentiment de défiance des classes populaires et d'une bonne partie des classes moyennes, pas seulement en France, en Suède, en Allemagne, vis-à-vis de la mondialisation et vis-à-vis de l'Europe, qui est extrêmement inquiétante. Et on aurait bien tort de penser que voilà, tout va bien, les gens n'ont qu'à accepter ce magnifique système.
C'était ce matin sur France Inter au micro de Léa Salamé. Les détails de cette étude, vous les trouvez sur franceinter.fr. Alors les inégalités, en France, ça n'est pas seulement une question d'argent. Il est plus facile d'accéder à des emplois, aux services publics, au commerce, aux derniers films, à Internet, si vous habitez Paris que, mettons, Cahors et la campagne autour. Cahors, préfecture du Lot, c'est là que le Premier ministre Édouard Philippe a choisi de délocaliser une partie du gouvernement pour la conférence des territoires. Quelles mesures veut-il prendre pour les territoires ruraux et les villes moyennes? Bonjour Karine Bécard.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Cahors. Pour les territoires ruraux, une des lignes de fracture avec le reste du pays, c'est l'accès à Internet. 15% des Français n'ont pas accès au haut débit. Eh bien, Karine, le Premier ministre promet ce matin le très haut débit pour tous dans moins de 5 ans.
Exactement, le très haut débit dans toute la France d'ici à 2022. Et pour y arriver, eh bien, tous les moyens seront bons. La fibre, la boucle locale radio, le satellite. En fait, pour parvenir à son objectif, le gouvernement est prêt à s'adapter à chaque département et à faire un mix, s'il le faut, de plusieurs technologies. Et puis, le gouvernement est prêt aussi à sanctionner en particulier les opérateurs qui ne joueraient pas le jeu. Les précisions de Mounir Badjoubi, secrétaire d'État chargé du numérique, qui est bien sûr à Cahors aujourd'hui.
Ça peut être des sanctions financières, ça peut être des sanctions, de limitation du nombre de nouveaux terrains dans lesquels ils iraient, ça peut être de ce type-là. Aujourd'hui, on avait une obligation qui n'était pas suivie d'une sanction. Donc, du coup, elle a été peu suivie. Donc, avec les opérateurs, quand on s'est remis autour de la table, on s'est tous redit, écoutez, vous vous donnez des nouvelles obligations, autorisez-vous à vous donner aussi ces nouvelles sanctions pour pouvoir être certain qu'on les appliquera.
Alors, qu'en disent les opérateurs? Effectivement, Stéphane Richard, le patron d'Orange, promet visiblement d'assumer.
Tous les engagements d'investissement que nous avons pris sur la zone moyenne mandance seront assortis de sanctions financières. Donc, on n'a pas de problème avec ça. Voilà. Moi, je suis en mesure de dire qu'Orange accepte de s'engager et accepte la sanction financière qui est prévue. On verra ce que les autres disent.
Mais attention, nous parlons des zones moyennement denses, c'est-à-dire des villes comme Cahors, des villes comme Blois. Là, les engagements pris seront sanctionnés s'ils ne sont pas suivis. En revanche, dans les zones typiquement rurales, dans les zones vraiment reculées, le gouvernement promet un guichet, c'est-à-dire de répertorier précisément ces espaces et d'apporter au cas par cas des solutions aux difficultés rencontrées.
Karine Becker en direct de Cahors avec Benjamin Chauvin. On vous retrouve dans quelques minutes, Karine. Voilà pour l'internet et les campagnes. Pour les villes moyennes et les petites villes, l'une des questions clés, c'est la dévitalisation des centres-villes. L'invité de ce journal est le maire de Cahors, Jean-Marc Vessouze. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Alors vous êtes parvenu à enrayer en partie la désertification du centre chez vous. Vous allez nous dire comment dans un instant. D'abord monsieur le maire, je vous propose d'écouter ce reportage dans une ville elle aussi confrontée à la question, c'est Saint-Nazaire. Reportage d'Anne Patinec.
Dans l'hypercentre de Saint-Nazaire, en 3 ans, le taux de vacance des commerces est passé de 15 à 9%. On voit moins de panneaux alloués sur les vitrines, mais pour faire leurs courses, beaucoup comme Nicole et Sylvie préfèrent encore la zone commerciale de Trignac.
Je ne vais jamais en centre-ville. Hein. L'accès parking payant, pour moi, c'est plus pratique par ici. Hein.
Pour se garer, c'est moins pratique, on va dire. Il n'y a pas de grand parking.
Pourtant, la ville fait des efforts pour offrir des heures de stationnement gratuites. Pour attirer des enseignes, la société d'économie mixte Sonadev a investi 3 millions d'euros dans des locaux commerciaux. Martin Arnoux, son président, est également adjoint au maire aux finances.
Lorsqu'il y a des ventes, nous pouvons préempter ou négocions à l'amiable pour racheter les cellules commerciales, les rénover et les relouer à des exploitants qui souhaitent s'installer en centre-ville. Ils sont assez nombreux.
La municipalité a aussi mis en place une surtaxe pour les propriétaires de commerces vacants depuis plus de 2 ans. Des programmes immobiliers neufs et de réhabilitation sont en chantier dans le but d'attirer de nouveaux habitants. Le centre-ville doit devenir une destination, se réinventer, estime Martin Arnoux.
Ça se traduit par exemple avec la volonté que nous avons de faire venir des étudiants en centre-ville, des entreprises. On a un projet numérique extrêmement important à Saint-Nazaire.
Et dès ce week-end, les enfants pourront venir s'amuser sur le Dragon des Mers, la nouvelle aire de jeu installée près du paquebot, destinée elle aussi à attirer les familles en centre-ville.
Monsieur Vessouze, vous qui êtes maire de Cahors et non pas de Saint-Nazaire, est-ce que ce reportage fait écho chez vous ?
Toujours un petit peu, parce qu'effectivement, comme toutes les villes moyennes, nous avons été touchés par l'étalement urbain. Je rappelle quand même que la surface occupée par l'habitat a progressé 5 fois plus vite que la population sur ces dernières années, que ça a été une atteinte aux espaces agricoles, aux paysages, et que dans le même temps, on a du coup vidé souvent nos centres-villes avec des logements vacants, avec des taux de vacances commerciales qui baissent. Donc nous avons souhaité, nous, à Cahors, engager une véritable démarche de reconquête du cœur d'agglomération en ayant des outils un petit peu innovant sur l'ensemble des champs d'investigation, d'action de notre collectivité, à la fois sur l'habitat, à la fois sur la tranquillité publique, sur la circulation et le stationnement.
Oui. Allons-y sur la circulation et le stationnement, parce que c'est souvent une question clé. À une époque, on ne voulait pas des voitures, et puis on s'aperçoit que si on ne peut pas venir dans le centre-ville et se garer en voiture, eh ben on ne va pas dans les commerces. Qu'est-ce que vous avez fait pour la circulation et le stationnement, monsieur le maire ?
Par exemple, sur toutes les personnes qui viennent travailler le matin et qui repartent le soir, on a développé des politiques de parking relais qui peuvent rejoindre le centre-ville ou par des navettes ou par des garages à vélo. Par exemple, vous venez avec votre voiture, vous récupérez votre vélo dans le garage et puis vous l'utilisez et vous le ramenez le soir. Et puis, on a mis le plus possible du stationnement avec payant avec rotation rapide. Et lorsque le stationnement est moins utilisé, je pense par exemple au samedi après-midi, là, on n'a pas hésité à mettre en place de la gratuité à la fois sur le stationnement payant de surface, mais à la fois sur les parkings ouvragés, parkings souterrains par exemple.
Alors voilà une piste. Quelles autres pistes pour revitaliser les centres-villes, Monsieur Vessouze ?
La première des choses, c'est de toujours considérer que les équipements structurants, qu'ils soient culturels, qu'ils soient de santé, qu'ils soient sportifs, on décide de les implanter en centre-ville. C'est pas un mouvement naturel, parce qu'en général, évidemment, c'est beaucoup plus facile de faire du neuf sur des terrains qui sont a priori plus adaptés et moins chers à l'extérieur. Nous, par exemple, nous avons gardé notre hôpital en centre-ville. C'est 1000 personnes qui viennent travailler et 1000 personnes qui viennent voir les malades. Vous imaginez ce flux à quel point le commerce de centre-ville peut en bénéficier. Nous portons aujourd'hui un projet de complexe cinématographique. Souvent, ces complexes sont installés en périphérie. Nous avons décidé, au contraire, de l'installer en centre-ville. Ça a supposé, évidemment, que la collectivité assure la maîtrise d'ouvrage de cet équipement. Ça a coûté plus cher, mais nous avons été accompagnés. Et demain, c'est 150 000 à 170 000 entrées que pourra faire ce complexe cinématographique. Et donc, c'est du flux supplémentaire, là aussi, vers la ville et vers les commerces. Vous... Il y a aussi évidemment la politique du logement. Il faut permettre aux habitants de revenir vers le centre-ville.
Et vous avez gagné des habitants dans le centre ?
Aujourd'hui, la baisse s'est arrêtée. Et nous sommes en train d'en regagner. Et surtout, nous sommes en train de revoir la mixité de nos populations en centre-ville. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de populations fragiles. L'objectif aujourd'hui, c'est de ramener de la population active, de la population plus jeune. Ça passe aussi, par exemple, par du développement universitaire en centre-ville. On sait que les étudiants, en général, préfèrent résider en centre-ville. Donc, on s'adapte en développant du logement étudiant. Mais aujourd'hui, il faut aussi changer un petit peu les mentalités. C'est vrai que on sait que 80% aujourd'hui des Français plébiscitent plutôt l'habitat pavillonnaire, mais je crois qu'il y a aussi la place pour de l'habitat plus adapté, avec aussi souvent, c'est le cas dans le centre-ville, une entrée plus patrimoniale, des immeubles de caractère, et ça aussi, ça fait notre identité. On a abandonné nos centres-villes, souvent nos centres historiques, alors que c'est pourtant à cet endroit-là que nous avons notre histoire, notre identité.
Le message que vous allez adresser à Édouard Philippe aujourd'hui, monsieur le maire, et on s'arrêtera là.
C'est ne pas considérer que la réussite de ce pays et le redressement de la France ne pourra passer que par les métropoles et par une théorie qui serait celle du ruissellement qui ferait que la dynamique métropolitaine pourrait servir à l'arrière-pays. Nous avons besoin, au contraire, de villes, nos villes moyennes, que moi j'appelle des villes d'équilibre, qui seront en capacité, parce qu'elles seront équipées de l'ensemble des équipements qui sont attendus par la population, par le numérique, qu'elles pourront à la fois absorber une partie de développement, accueillir des habitants, des entreprises qui pourront derrière aussi irriguer cette ruralité, cet arrière-pays dont on parle beaucoup, dont on sait aussi aujourd'hui toutes les fragilités qu'il incarne et la nécessité à un moment donné de pouvoir avoir dans notre pays un équilibre territorial qui ne soit pas celui qu'il est aujourd'hui, parce qu'il faut bien avoir conscience que la fracture territoriale est en train de s'aggraver dans notre pays et ce serait certainement une erreur que de suivre cette pente-là.
Vous parliez du numérique, l'accès à Internet, c'est un sujet à Cahors où il n'y a pas de problème ?
C'est un sujet dans quasiment toutes les villes moyennes, hein, bien évidemment, et dans toutes nos zones plus rurales, parce que les opérateurs ont toujours privilégié la densité. Donc il y a des plans qui ont été annoncés de développement de la fibre, ça me paraît évidemment essentiel. C'est la première demande qui est faite aujourd'hui par les citoyens et par leurs acteurs économiques dans leur choix d'implantation. Et donc c'est un enjeu évidemment majeur pour assurer un meilleur équilibre territorial.
Merci beaucoup Monsieur Vessouze d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous.
Bonne journée.
Merci.
Jean-Marc Vessouze, le maire de Cahors, entretien enregistré en fin de matinée. À 13h, il ne pouvait pas être avec nous. Il déjeune avec le Premier ministre dans le cadre de cette conférence des territoires. J'ajoute qu'au Sénat, un groupe de travail doit présenter des propositions pour la revitalisation des centres-villes d'ici à l'été prochain. Alors à propos de la rencontre entre Édouard Philippe et les élus locaux, Karine Bécard, on vous retrouve en direct de Cahors. Vous êtes toujours là, Karine ?
Oui, bien sûr.
L'un des buts de cette journée, c'était de renouer le dialogue avec les élus locaux pour le chef du gouvernement. Les élus fâchés par les baisses de dotation, les employés des supprimés et d'autres dossiers. Est-ce que le climat s'arrange un peu ?
Écoutez, chaque représentant de collectivité est en soi présent. Ce que je veux dire, c'est que les régions sont représentées, les départements sont représentés, les petites communes, les grandes, les métropoles, bref, tout le monde est là. Tout le monde a rangé, en quelque sorte, sa menace de boycotter l'événement. Pour autant, il y a beaucoup de méfiance encore vis-à-vis du gouvernement. Les collectivités veulent être écoutées, elles veulent des marges de manœuvre, elles refusent surtout que ce soit l'État qui décide, par exemple, de leur taux d'endettement pour freiner leurs dépenses publiques. Donc, c'est une journée encore compliquée pour le Premier ministre Édouard Philippe, qui doit à la fois trancher et réconcilier.
Autre sujet de grogne, merci beaucoup Karine Bécard. Autre sujet de grogne et de malaise dans les territoires, la réforme de la carte judiciaire. Une dizaine de cours d'appel pourraient disparaître. Appel à la grève des avocats dans tout le Grand Ouest aujourd'hui. Parmi les villes qui pourraient perdre leur cours d'appel, il y a Pau, Limoges, Agen. Et puis de l'autre côté de la carte, il y a Chambéry. 200 avocats en robe aujourd'hui devant le palais de justice pour manifester. Par exemple, maître Catherine Anxiona.
La suppression de la cour d'appel de Chambéry risquerait de voir les citoyens des Savoies ne plus exercer leur droit de la défense s'ils devaient demain traverser une partie de la France pour aller mener des actions en justice ou se défendre face à des actions qui seraient engagées contre eux. Est-ce qu'ils devraient se rendre à Lyon, à Grenoble, à Clermont, à Rennes? Nous n'en savons strictement rien.
Et voilà, Catherine Anxiona, interrogée par Bluette Dupin à Chambéry. L'organisation des services publics sur les territoires, c'est décidément le fil rouge de ce journal. Quel avenir pour le service public de l'audiovisuel? Le chantier est ouvert par le gouvernement. Ce sera le thème du Téléphone Sonne ce soir sur France Inter. Vos sujets de préoccupation, vos questions à Mathieu Gallet, notamment. Il sera l'un des invités de France Inter, le PDG de Radio France. Mathieu Gallet qui s'exprimait ce matin devant les salariés de Radio France. Il confirme un des aspects du chantier, les stations locales de Radio France et France 3 amenées à collaborer plus étroitement.
Nous avons 44 radios locales. Pour beaucoup, ce sont des radios au niveau de département. Ce qui n'est pas le cas de France 3, qui est une chaîne nationale avec des décrochages régionaux. Donc si on doit travailler sur des expérimentations autour de matinales globales, radio, vidéo, numérique, ça doit forcément se faire où c'est possible. Je ne pense pas qu'ils vont ouvrir un France 3 à Guéret, d'une de nos stations que j'ai visitées il n'y a pas longtemps, qui remplit une mission ô combien importante dans un département rural dont on voit la population partir. Ce lien social que permet France Bleu à Guéret et dans tout le département de la Creuse, France 3 le remplit pas.
Quel service public de l'audiovisuel voulez-vous? C'est la question qui vous est posée ce soir entre 19h20 et 20h au Téléphone Sonne. Vos questions 01 45 24 7000 à partir de 18h ou bien franceinter.fr. Parmi les invités, Mathieu Gallet, mais aussi Serge Simino et Franck Riester. Serge Simino qui est délégué du Syndicat National des Journalistes à France 3 et Franck Riester, député centriste. Comment va l'audiovisuel public en ce qui concerne votre radio? On peut toujours faire mieux, vraiment, mais ça va plutôt bien. France Inter, première radio de France sur les support numérique, le téléphone, l'ordinateur, la tablette. Vous êtes plus d'un million chaque jour à nous écouter comme cela. C'est un record d'audience, record de podcast aussi, près de 32 millions de téléchargements en novembre. Encore un chiffre pour vous dire que France Inter intéresse de plus en plus les jeunes auditeurs, les 13-34 ans, 600 000 auditeurs de plus sur cette tranche d'âge entre 2014 et 2017. Merci à vous.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
À Moscou, la conférence de presse annuelle de Vladimir Poutine. Pour faire le lien avec le début de ce journal, dans son pays, la Russie, les inégalités explosent. Les 10% les plus riches captent presque la moitié du revenu national. En Russie encore, les libertés publiques diminuent, mais la cote de popularité de Poutine, en tout cas officiellement, reste élevée. Et la Russie a retrouvé une influence internationale importante, voyez par exemple en Syrie. Voilà le tableau général. Que retenir de cette conférence de presse? Claude Brouillot, d'abord, une scène étonnante qui dit quelque chose du climat en Russie et qui implique une adversaire de Poutine aux prochaines élections.
Au milieu des 1600 journalistes russes et étrangers, Ksenia Sobchak, candidate de l'opposition à la présidentielle, qui avait troqué sa tunique de politique pour revêtir celle de la journaliste qu'elle dit être encore. Peu importe ici le mélange des genres, Ksenia Sobchak est volontaire pour en découdre avec Vladimir Poutine.
Je voudrais poser une question. Je suis ici comme un journaliste. C'est mon chance de poser une question à notre président. Merci beaucoup.
Trois heures plus tard, Ksenia Sobchak n'a toujours pas posé sa question de journaliste liste candidate. Vladimir Poutine a de toutes les façons déjà anticipé et répondu que l'opposition ne doit pas seulement faire du bruit, mais surtout faire de vraies propositions. Le président candidat, très à l'aise, s'est notamment permis de voler au secours de Donald Trump. Objectivement, nous voyons certains résultats sérieux de son travail dans la période passée. Les taux de croissance augmentent, cela veut dire que les investisseurs ont confiance dans l'économie américaine et dans le travail de Donald Trump. Moscou, Claude Bruyot, France Inter.
Qui sera Premier ministre à Londres quand le Brexit aura effectivement lieu en mars 2019? Bien malin qui peut le dire en tout cas. Alors qu'un nouveau sommet à Bruxelles s'ouvre aujourd'hui, l'actuelle Première ministre Theresa May arrive face à ses homologues, chefs d'État et de gouvernement, un peu plus affaiblis à chaque fois. La semaine dernière, un début d'accord a été trouvé sur la phase 1 du Brexit, les conditions du divorce. Accord plutôt favorable aux Européens, donc mal accueilli à Londres. Hier, défaite au Parlement pour Madame May. Tout accord final conclu avec Bruxelles devra être ratifiée par un vote à Westminster. Elle est un peu plus entravée. France Inter à Londres, Marina Daras.
Malgré ses efforts pour tenter de convaincre les députés rebelles qui avaient déposé cet amendement, Theresa May a essuyé sa première défaite aux communes en perdant ce vote de seulement 4 voix. Le gouvernement avait promis qu'il soumettrait l'accord à un vote parlementaire, mais un groupe de députés conservateurs et travaillistes confondus voulait absolument inscrire ce vote dans la loi britannique pour que les ministres ne puissent pas revenir sur leurs promesses et passer en force l'accord négocié à Bruxelles. D'après le gouvernement, un vote contraignant pourrait compromettre les chances de parvenir à un accord rapide, puisque le Parlement britannique a désormais le pouvoir de renvoyer Theresa May à la table des négociations si l'accord ne les satisfait pas. Cette dispute renforce également l'image d'un gouvernement britannique qui se déchire. Le chef du parti travailliste, Jeremy Corbyn, parle même d'une humiliante perte d'autorité. Mais si les négociations se compliquent et que Bruxelles la pousse à accepter un accord qu'elle ne veut pas, Theresa May pourra toujours compter sur le Parlement pour user de son droit de veto. À Londres, Marina Daras pour France Inter.
Nous parlions de l'accès à Internet en France. Tout à l'heure, une décision est attendue dans les heures à venir à propos de l'accès à Internet. Aux États-Unis, l'Agence fédérale des communications devrait mettre fin à la neutralité du net qui permet d'offrir le même débit à un tout petit site qu'à Google. Aux États-Unis, cette neutralité est vue comme un frein aux investissements. Le principe doit demeurer en Europe. C'est une journée clé au procès de l'ancien secrétaire d'État Georges Tron à la cour d'assises de Bobigny. L'adepte de la réflexologie plantaire est accusé de viol et agression sexuelle. Bonjour Corinne Audouin.
Bonjour.
Vous êtes en direct, Corinne, de la cour d'assises. Journée clé parce que les deux accusatrices du maire de Draveil sont appelées à la barre.
Oui, Virginie Faux, habillée de noir, longs cheveux blonds noués en queue de cheval, est sous le feu des questions du président de la cour d'assises. Embauchée fin 2008 par Georges Tron à l'accueil de la mairie, elle dénonce un premier viol en novembre 2009 à l'issue d'un repas dans une salle de réception. Le président lit sa plainte de mai 2011. Les invités partis, Monsieur Tron me demande de rester. Madame Gruel ferme la porte à clé, elle me masse les épaules puis la poitrine en me dégrafant. Monsieur Tron remonte ma jupe, passe la main dans ma culotte. Il introduit un doigt dans mon vagin. Voyant que je n'ai aucune réaction, il commence à caresser Brigitte Gruel. Virginie Faux s'essuie les yeux. Le président l'interroge brusquement. « Bon, est-ce que vous avez manifesté votre désaccord ?»« J'étais tellement choquée, je n'ai pas compris ce qui se passait », commence-t-elle. « Quand même », l'interrompt Régis de Jorna. « Vous vous rendez bien compte qu'on vous déshabille ?» J'avais le cœur qui battait dans les oreilles. J'étais plus là, comme paralysée, j'ai pas bougé. Pas pu parler, je suis devenue toute molle. « Vous n'avez pas pu opposer de résistance ?» Non. L'interrogatoire se poursuit sur le même ton, pointant les contradictions de la plaignante. Une tentative de suicide le soir même, qu'elle situe un mois plus tard. Une liaison supposée avec son médecin. Tout est passé au crible. L'avocat de Virginie Faux se lève. Je suis très étonnée de cet interrogatoire, tout droit sorti des années 50, où l'on semble découvrir un phénomène qui s'appelle la sidération.
Corinne Audouin en direct de Bobigny avec Jean-Marie Porcher. L'actualité de l'éducation, le ministre Blanquer veut rendre à nouveau possible le redoublement à l'école. Le Conseil supérieur de l'éducation examine la question aujourd'hui. On en reparlera sur France Inter évidemment. Une partie des enseignants de Seine-Saint-Denis est en grève aujourd'hui, en particulier dans les écoles. Beaucoup d'écoles fermées à Montreuil et Saint-Denis. Inquiétude globale sur les moyens au sens large accordés à l'éducation dans ce département emblématique de Seine-Saint-Denis. Nous en venons à notre rendez-vous santé du jeudi avec Daniel Messager. Bonjour Daniel.
Bonjour Bruno.
Aujourd'hui, l'appel de chercheurs et entrepreneurs qui pratiquent des essais cliniques et qui menacent de quitter la France. Les essais cliniques, étape évidemment fondamentale de la mise au point de nouveaux médicaments, vont-ils se faire ailleurs que dans l'Hexagone? Hier, ces entreprises en innovation innovation de santé. Ces chercheurs ont envoyé une lettre à la ministre de la Santé pour tirer le signal d'alarme.
Trop de lourdeur administrative, des dossiers qui s'empilent, qui s'enlisent. Après les essais in vitro, in vivo, chez l'animal, les essais cliniques chez l'homme sont indispensables pour élaborer de nouveaux médicaments. Il y a donc des procédures, des experts nommés pour protéger les personnes qui testent. Et c'est très bien encadré en France, mais c'est beaucoup plus long qu'ailleurs, à cause entre autres de l'affaire du Mediator et des conflits d'intérêts qui étaient apparus à l'époque. Mais trop, c'est trop, dénonce Marie Vognans, elle est présidente de France Biotech.
Les autorités, je crois que c'est le Sénat au départ, qui a décidé, pour éviter les conflits d'intérêts entre les experts et les sociétés, de faire un tirage aléatoire. Et
là, un tirage au sort.
Un tirage au sort aléatoire. Et là, c'est un petit peu catastrophique parce que vous mettez dans un grand chaudron tous les experts, quelle que soit leur spécialité, et vous tirez au sort l'expert. Et quelquefois, eh bien, pour un dossier dans le domaine de l'immunothérapie, par exemple, eh bien, vous tirez au sort un expert de l'orthopédie.
Et pour le coup, il ne va pas avoir de conflit d'intérêt, mais il ne sera pas compétent non plus.
Non, il pourra lui-même dire, je ne peux pas analyser ce dossier, c'est absolument pas ma discipline. Donc, on remet l'expert dans le chaudron et on recommence. On retire au sort et alors on dit à l'entreprise, revenez dans 4 mois. Et une entreprise française a à 1h30 de chez elle ou 2h en Belgique un système qui fonctionne. Et en 4 mois, vous avez réglé la demande d'autorisation.
Alors, il n'y a pas que la Belgique, hein, Daniel Messager. Les essais cliniques français se font de plus en plus en Allemagne, en Grande-Bretagne, aux États-Unis.
Avec ce chiffre donné par France Biotech, 68% des essais cliniques sont réalisés à l'étranger. Et ce qui entraîne forcément des conséquences qui affectent d'abord les malades.
Pour des patients qui ont des maladies incurables sans traitement aujourd'hui, d'être dans un protocole d'essai peut sauver ces patients. Donc ça, c'est une première conséquence. La deuxième, c'est un assèchement de la recherche clinique en France. C'est vraiment catastrophique. La troisième conséquence, c'est un manque à gagner. On a fait une estimation, c'est au moins 2 milliards par an parce que les entreprises payent l'hôpital pour réaliser ses essais.
Cet argent, du coup, il va aux hôpitaux à l'étranger quand
Exactement.
Les essais cliniques sont faits à l'étranger.
Exactement. On paie les hôpitaux belges pour le faire.
Oui, ça fait un sacré enjeu. Alors l'appel, Daniel, vise à simplifier les tâches administratives. On a entendu comment s'opérait le choix des experts. On peut sans doute gagner du temps. Hein.
Oui, mais toutes ces tâches incombent à l'Agence nationale de sécurité des médicaments qui croule déjà sous les différentes missions. Donc il faut se donner les moyens d'accélérer les procédures. Faute de quoi, effectivement, c'est toute la recherche française en matière de santé qui pourrait subir de gros revers.
Merci Daniel Messager. L'actualité de la santé, l'ancienne formule du Lévothyrox, encore 1 an, mais pas plus. Merck prévoit de ne pas la fournir au-delà de l'année 2018. À l'heure où la grippe cloue au lit pas mal de gens en ce moment, on en est au stade de l'épidémie en Ile-de-France. Terminons avec une exposition consacrée à l'un des hommes dont le nom est devenu presque synonyme de vaccin. Pasteur, Louis Pasteur, 1822-1895, inventeur donc du vaccin contre la rage, mais pas seulement. Sophie Becherel, l'exposition au Palais de la Découverte à Paris dévoile bien d'autres facettes du personnage.
Il est curieux, aime le terrain, promeut lui-même ses découvertes. Pasteur a aussi des talents cachés, révèle Annick Pierrot, historienne.
L'aspect très méconnu de Pasteur, c'est qu'il a été un artiste, mais il n'a dessiné que des portraits. Alors il y a quelque chose aussi qui est carrément méconnu, c'est qu'il a été professeur à l'École des Beaux-Arts de Paris.
La science appliquée est pour lui essentielle. Il répond aux questions des agriculteurs, des industriels. C'est ainsi qu'il décrypte les processus à l'œuvre dans la fermentation, explique Astrid Aron, commissaire de l'exposition.
L'une des contributions majeures de Pasteur, c'est d'expliquer qu'en fait, pour chaque type de fermentation, fermentation alcoolique, fermentation acétique, celle qui fait le vinaigre, il y a un ferment responsable, ils ne sont pas interchangeables.
Et ce n'est pas pour le lait qu'a été inventée la pasteurisation. Non, c'est pour le vin. Ce scientifique est un patron de start-up avant l'heure.
Il a eu certainement un esprit d'entrepreneur, c'est venu assez vite.
Maxime Schwartz, ancien directeur général de l'Institut Pasteur.
Ça a été très caractéristique après ses travaux sur la bière, où là, il a pris des brevets. Il a même participé à la création d'une société des bières inaltérables. Et puis ensuite, quand il a inventé le vaccin contre le charbon des ovins, il y a également eu une société créée qui, naturellement, a apporté des fonds pour le développement de la recherche.
A signalé une scénographie très réussie, comme ce rendu de la transmission de la maladie du charbon. Le film d'animation utilise de la laine, tout simplement magnifique.
Un Pasteur, l'expérimentateur, c'est jusqu'au 19 août prochain au Palais de la Découverte à Paris et sur franceinter.fr. Vous trouverez cet article intitulé « 5 choses que vous ignorez sans doute sur Pasteur ». À l'instant, la confirmation d'un rapprochement très important dans le monde des médias. média Disney rachète une partie de la 21st Century Fox. La météo.
La météo, avec les dindes fermières de Loué. Loué, le bon goût de la liberté.
Élodie Calac.
Ça souffle encore, des rafales jusqu'à 80 km à l'heure, 90 à 100 sur les côtes, jusqu'à 110 pour les côtes bretonnes. Les nuages l'emportent presque partout, avec eux des averses. Elles s'accompagnent parfois d'orages et de grésils au nord de la Loire, mais elles sont plus espacées en allant vers le sud-ouest. La Corse garde un ciel pluvieux, beaucoup de vent, pour trouver du soleil direction le pourtour méditerranéen. On attend 6 à 12 degrés au nord, 6 à Lille, 8 à Paris, Besançon, 11 à Nantes. Dans le sud, 9 à 17 degrés, 12 à Lyon, 13 à Toulouse, 17 à Perpignan et Bastia. Demain, quelques degrés de moins et toujours un temps instable avec des averses, de la neige en montagne et du vent.